radio.
Slash.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue à la 15e émission de Tous Ensemble sur Radio Slash. C'est Faustin et je suis heureux de vous présenter cette émission un peu spéciale car nous sommes avec les BTS GPME, gestion des petites et moyennes entreprises, et BTS SAM, support à l'action managériale. Nous évoquerons aujourd'hui le thème des ressources humaines. Allez, c'est parti avec Chloé.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons du street sourcing qui est une branche du recrutement présent dans les ressources humaines.
Lina, qu'est-ce que le street sourcing ?
Recruter est avant tout une histoire de rencontre. Le street sourcing peut donc être vu comme un retour aux sources. C'est une nouvelle technique de recrutement innovant qui consiste à aller à la rencontre des candidats potentiels dans la rue en les abordant avec une simple question comme « Recherchez-vous un travail ?»
Le street sourcing permet d'orienter les personnes vers les secteurs ou des métiers qui leur correspondent le mieux. Les recruteurs proposent ensuite un questionnaire pour évaluer les compétences des candidats qui visent à en savoir plus sur les comportements et le savoir-être de certains individus. La capacité à bien savoir rédiger un CV ou faire une belle lettre de motivation n'est pas ce qui importe le plus aujourd'hui. Ce qui est essentiel aujourd'hui dans le marché du travail est le savoir-être d'une personne. Aujourd'hui, les employeurs regardent avant tout le savoir-être, qui est bien plus important que le savoir-faire. Les questionnaires sont réalisés le plus souvent par un professionnel en sciences humaines et sociales.
Quels sont les avantages ?
La sélection a différents avantages. Il privilégie le contact direct et le face-à-face dès le début, met en avant les soft skills et permet de replacer l'humain au cœur du processus de recrutement. Il est un moyen de décloisonner le recrutement et de rendre accessible certains secteurs auxquels les personnels à la recherche d'un emploi ne penseraient pas forcément. De quoi donner à tous la possibilité d'exprimer ses talents, et c'est un moyen de recrutement idéal pour les métiers en tension tels que le milieu médical et les métiers du bâtiment.
Avez-vous des exemples ?
Certaines entreprises ont déjà commencé à adopter ce type de recrutement. L'agence d'intérim a promu lors de la Coupe du Monde du rugby qui a réalisé du street sourcing à la gare de Saint-Lazare à Paris.
C'était Anaïs, Lina, Justine, Magat et Chloé sur le street sourcing.
Merci beaucoup pour cette émission très intéressante. On retrouve maintenant Ryan.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien cette très belle journée. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'importance d'une bonne intégration lorsqu'un nouveau salarié arrive dans une entreprise. Pour parler de ce sujet, j'accueille Océane, tutrice, et deux employés, Manel et Selima, qui vont nous apporter un témoignage sur leur arrivée dans leur nouvelle entreprise. Bonjour Océane, vous êtes donc responsable ressources humaines. On vous assigne en tant que tutrice des nouveaux salariés dans une grande entreprise et pour vous, l'intégration des nouveaux salariés doit être une priorité. Pouvez-vous nous expliquer les différentes étapes que vous proposez pour une bonne intégration des salariés dans votre entreprise ?
Bonjour Ryan, tout d'abord, la première étape est d'informer mes collaborateurs de l'arrivée d'un nouvel employé.
Comment vous y prenez-vous, Océane ?
En principe, j'envoie un mail quelques jours avant la venue du nouveau collaborateur à l'ensemble de l'équipe. Je réunis lors d'une petite réunion rapide les employés avec qui elle va travailler directement.
Comment préparez-vous l'arrivée de ce nouvel employé, Océane ?
Avant l'arrivée de la stagiaire, je lui fais part des emplois du temps et des projets à venir par mail. À son arrivée, le premier jour, je l'accueille personnellement en lui remettant des badges et par la suite, je lui présente les locaux et nos collaborateurs et également, je lui montre une courte vidéo qui présente l'entreprise et les différents postes.
J'ai vu que vous pouviez proposer une journée d'intégration. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Pour faire connaissance, nous préparons un déjeuner partagé.
C'est vraiment très bien. Selima, est-ce que cela s'est passé comme ceci pour votre intégration dans votre entreprise ?
Oui, Ryan, j'ai vraiment été très bien intégrée. La tutrice était très soucieuse et m'a bien accompagnée tout au long de ma période d'essai. J'ai pu poser toutes les questions nécessaires et découvrir la plupart des postes. Pour le déjeuner partagé, nous avons fait une raclette partie qui m'a bien permis de m'intégrer et mise en confiance.
Est-ce qu'après la période décès, le suivi s'arrête.
Non, bien sûr. Ma tutrice était toujours disponible pour répondre à mes questions et m'aider si besoin. Un mois après ma période d'essai, ma tutrice a fait un point afin de savoir si les outils sont maîtrisés.
Votre accueil semble très bien. Tout de suite, nous accueillons aussi Manel, qui elle a une expérience plutôt négative. Manel, que s'est-il passé pour vous ?
Alors, me concernant, contrairement à mes attentes, j'ai été surprise du mauvais accueil. Je n'ai pas été suivie, on m'a demandé des tâches sans me les expliquer et je devais me débrouiller par la suite. On ne m'a pas vraiment assigné de tutrice pour ma période d'essai. Je n'ai pas eu aussi un déjeuner partagé pour pouvoir m'intégrer et connaître les collaborateurs.
Comment avez-vous fait ?
Je me sentais tellement perdue que j'ai tout de suite demandé un rendez-vous avec la responsable RH. Elle était distante mais a compris ma situation. Elle a pu répondre à mes questions. Mais malgré tout, il m'a fallu beaucoup de temps pour être intégrée dans le service. C'est dommage car ces difficultés auraient sans doute pu être évitées avec un bon accueil. Je suis très vigilante maintenant. Lorsqu'un nouvel employé arrive dans l'entreprise, j'essaye de l'intégrer et de l'aider autant que je peux.
Oui, je comprends. Nous venons donc de voir comment l'intégration dans une entreprise par la responsable RH est très importante pour les salariés et leur bien-être dans l'entreprise. Je vous remercie tous les deux pour ce témoignage et merci à vous, Océane, d'avoir répondu présent à mon invitation. À vous, les studios.
Merci beaucoup, c'était très intéressant comme émission. Voilà, nous donnons désormais la parole à Pauline.
Bonjour mesdames et bienvenue, vous êtes ici pour pouvoir aborder le sujet de la QVCT. Ça veut dire la qualité de vie et les conditions de travail au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, c'est-à-dire Kiabi. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est la QVCT. Ça représente un sentiment de bien-être au travail qui est perçu collectivement et individuellement. Elle englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, les conditions de travail et d'autres sujets sur les ressources humaines. Passons donc au vif du sujet. Pouvez-vous commencer par nous présenter brièvement Kiabi ?
Kiabi, une imposante structure de vente de vêtements qui détient 500 magasins dans le monde, dont 300 en France. C'est une entreprise avec la notoriété due à ses prix bas et ses styles qui peut intéresser tout le monde.
Parfait résumé. Maintenant, intéressons-nous au plus important. Est-il plaisant et intéressant de travailler chez Kiabi ? Pour commencer, prenez-vous du plaisir à aller au travail ?
Oui, l'ambiance de travail est très agréable.
Oui. De plus, il y a beaucoup de solidarité entre les salariés. Par exemple, en cas de besoin, certains collègues peuvent nous remplacer sur nos horaires, si nos supérieurs hiérarchiques nous le permettent, bien sûr.
C'est un bel avantage. Avez-vous une grande diversité chez Kiabi ?
Bien sûr, 6% des travailleurs ont un handicap, ce qui montre que nous ne faisons pas de différence.
Il y a aussi une bonne égalité des sexes.
Cela est pas mal pour l'image de Kiabi. Avez-vous un bon équilibre de vie professionnelle et personnelle ?
Oui. Personne ne nous contacte durant nos vacances ou nos jours de repos et nos pauses sont bien respectées.
Super. Avez-vous des avantages sur vos achats dans l'entreprise ?
Nous avons le droit à 20% sur n'importe quel achat.
Avez-vous d'autres avantages divers ?
Nous avons le droit à des primes, la mutuelle d'entreprise, mais aussi des chèques vacances.
Il y a aussi des crèches réservées aux salariés de l'entreprise avec des conditions d'inscription.
En résumé, conseillerez-vous cette entreprise ?
Oui, cette entreprise vous apporterait beaucoup.
Et puis l'entente est parfaite, nous sommes heureuses de nous lever le matin.
De plus, Kiabi montre à tous que la solidarité est importante en créant un fonds de solidarité pour aider les familles de salariés en grande difficulté.
Merci à vous de vous être déplacés pour répondre à nos questions.
Merci beaucoup, c'était génial. Nous retrouvons désormais Cérine et Diana.
Pardon.
Bonjour à tous, nous allons donc aborder sur le télétravail et le stress. Le télétravail, stop ou encore ? Le télétravail, c'est quoi ? Il s'agit d'un travail effectué chez soi et hors de l'entreprise de façon régulière et volontaire. Le télétravail pendant le Covid. La crise sanitaire a favorisé une extension sans précédent du télétravail. En janvier 2021, 27% des salariés le pratiquent, contre 4% en 2019. Les différents inconvénients causés par la crise sanitaire sont l'isolement social, le non-respect du droit à la déconnexion, un manque de discipline, une productivité problématique en télétravail. Une étude réalisée par le MIT pointe notamment du doigt la productivité des collaborateurs lorsqu'ils sont en télétravail. Celle-ci baisserait de 18% en moyenne pour les salariés nouvellement embauchés, travaillant exclusivement à distance et à temps plein. Une productivité qui pose forcément problème sur les dirigeants qui ne voient pas ces chiffres d'un bon œil. Il n'est donc pas surprenant de lire la volonté d'une majorité de PDG interrogés dans le monde de souhaiter un arrêt total du télétravail. C'est ce que montre l'étude menée par KPMG. Deux tiers des dirigeants interrogés autoriseraient un et sur deux jours de télétravail par semaine. C'est toujours le modèle dominant depuis la fin de la crise sanitaire, ce qui ouvre 3-4 jours où le télétravail intégral reste minoritaire. D'ailleurs, tous les salariés ne se ruent pas sur le télétravail. Enquête après enquête, les salariés interrogés dans le cadre des émissions d'expertise réalisées depuis la crise sanitaire expriment massivement le souhait de continuer à télétravailler ou de pouvoir télétravailler davantage. Parmi ceux qui peuvent télétravailler, 30% continuent d'aller tous les jours au bureau, sauf cas exceptionnels. 29% adaptent la fréquence en fonction de leurs contraintes professionnelles ou personnelles. Et 40% en profitent au maximum, ce qui est plutôt raisonnable.
Merci beaucoup pour cela, c'était très intéressant. Et tout de suite, nous retrouvons pour le Grand Quiz International Sacha, Nicolas, Evan et Dimitri.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le quiz sur le thème de la santé et sécurité au travail. Au cours de ce quiz, je vais poser 10 questions aux 3 candidats ici présents. Tout d'abord, voici Nico.
Là, ici, bonjour.
Ensuite, Evan.
Salut.
Et le fameux Dimitri.
Bonjour.
Commençons dès maintenant. Première question. Quelle est la proportion de personnes étant touchées par le burn-out ? Première, A, 2 tiers, B, 3 cinquièmes, C, 1 quart, D, 1 tiers.
Je dirais un quart.
C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse est un tiers. Deuxième question. Combien de personnes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement au travail ? A, un tiers. B, trois quarts. C, un quart. Et D, deux cinquièmes.
Je dirais la réponse A qui est un tiers.
C'est une bonne réponse. En effet, c'est énorme. Passons à la troisième question. Quel est le nombre d'accidents du travail par an ? A, environ 150. B, plus de 600 000. Et C, 3 millions.
Je pense que c'est plus de 600 millions.
C'est faux, malheureusement. La bonne réponse est la B, plus de 600 000. C'est hallucinant. 4. Combien y a-t-il de morts par an en France au travail ? A, 500 000. B, 1 million. C, 1000 morts par an.
Je dirais 1000 morts par an.
Oui, en effet, la France est le pays de l'Union européenne qui compte le plus de décès au travail, c'est 1000 morts par an.
Allez.
Cinquième question, comment peut-on se protéger du bruit au travail ? A, avec un casque. B, des bouchons oreilles. C, des AirPods. D, une enceinte pour mettre de la musique.
J'aurais dit une enceinte pour mettre de la musique.
Eh non, Nico, tu te trompes. Nous ne sommes pas en sécurité avec une enceinte. C'est la A ou bien la B. Sixième question. D'après vous, existe-t-il un bon stress et un mauvais stress au travail ? A, oui. B, non. C, peut-être.
Je pense que c'est non.
Mais oui, c'est bien ça. Le stress est mauvais, quel qu'il soit. 7. Vous pouvez refuser de travailler après avoir alerté votre employeur si A, les freins de votre véhicule de service sont défectueux. B, vos bureaux ne sont pas chauffés, il fait 2 degrés. C, votre employeur vous parle mal.
Je dirais les freins de votre véhicule de service sont défectueux ou votre employeur vous parle mal.
Alors pas tout à fait, il y a la A et la B. Question 8. Au travail, qui est responsable de votre santé et de votre sécurité ? A, l'employeur. B, vous-même. C, les représentants du personnel. D, vos collègues.
Alors moi je connais tout par cœur, c'est les 4 réponses.
Mais qu'il est fort ce Nico, c'est effectivement ça. Combien de personnes travaillent au noir en France ? A, 200 000, B, 20 millions, C, 2,5 millions.
Je dirais 2,5 millions.
Bien joué, c'est la bonne réponse.
Ouais. Ah oui.
Et la dixième et dernière question, quelle est la cause principale d'accident du travail en France ? A, étouffement pendant la pause de repas, B, la manutention manuelle, C, électrocution, D, accident sur le chemin du travail.
Je dirais accident sur le chemin du travail.
Non, ce n'est pas ça, c'est la B. Oh. C'est terminé, passons au classement. Qui est le fameux vainqueur ? Et c'est Nico, le top 1. Bravo à toi, champion.
Ouais.
Et Dimitri et Evan suivent en deuxième et troisième position. Merci à tous pour votre participation et on se dit à bientôt.
Merci beaucoup pour ce quiz, c'était exceptionnel.
Merci à toi, Faustin.
Nous retrouvons de plus Fares qui va nous parler des personnes en situation de handicap.
Alors bonjour à tous. Alors bonjour à tous, c'est Fares, bienvenue en direct sur l'émission Prends la parole. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler avec nos invités de la situation qu'ils vivent au quotidien, les personnes en situation de handicap pour trouver un travail. Nous rencontrons aujourd'hui Faustin, Mohamed et Gaëtan. Ils nous donneront leur avis sur cette situation. Faustin, une personne atteinte de handicap, a vu sa demande d'emploi être refusée en raison de son handicap. Quel est votre avis sur cette situation ?
Bonjour à tous. Concernant la situation de cette personne, je trouve cela déplorable que des gens soient jugés uniquement en raison de son handicap, alors qu'il est apte à se débrouiller, comme n'importe qui. Il faut que les gens évoluent et arrêtent ce genre de discrimination.
Au vu de cette situation, avez-vous des solutions pour mettre fin à cette injustice ?
Pour moi, la solution la plus concrète serait que les discriminateurs soient punis par la loi sévèrement pour éviter ce genre de situation. Il faut que les recruteurs soient moins stricts concernant leurs critères de sélection.
Tout à fait. La mentalité des recruteurs doit effectivement évoluer, ce qui est primordial pour que les personnes handicapées soient acceptées à l'embauche. Et vous, Mohamed, que pensez-vous de la situation que les personnes handicapées vivent concernant leur demande d'emploi ?
Je suis d'accord avec les propos de Faustin. Je pense que la justice doit sévir. En effet, les personnes en situation de handicap ont tout autant de chances de réussir. C'est notamment le cas de Stephen Hawking, atteint de la maladie de Charcot, qui a réussi à devenir physicien.
Pouvez-vous nous éclairer sur la maladie de Charcot ?
La maladie de Charcot est la plus fréquente des maladies du neurone moteur. Elle se caractérise par une perte progressive du neurone moteur du cerveau et de la moelle. Stephen Hawking est devenu l'un des plus grands physiciens au monde malgré sa situation de handicap. Ce qui prouve que tout le monde peut réussir en ayant un handicap.
Merci Mohamed pour cette histoire qui nous donne espoir et qui va en motiver plus d'un. Passons à Gaëtan qui va nous raconter l'histoire de son ami Clément, devenu professeur d'histoire géo.
Bonjour, en effet mon ami Clément a connu un grave accident il y a 12 ans. Lors d'une soirée arrosée, Clément a pris la route pour rentrer chez lui, mais malheureusement il a fait un accident de voiture qui lui a paralysé la colonne vertébrale. Depuis ce jour, mon ami a perdu l'usage du bas de son corps et il est donc en fauteuil roulant. Mais il n'a jamais perdu espoir et a réussi à passer outre son handicap pour obtenir son diplôme et enfin devenir professeur d'histoire géo. Son histoire m'a fasciné et prouve que n'importe qui peut se donner les moyens de réussir.
Alors merci beaucoup Gaëtan pour votre témoignage. Grâce à vous tous, vous nous avez montré que l'handicap n'est pas une barrière pour la vie professionnelle. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette émission fantastique. Et nous retrouvons enfin Maxime.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons évoquer le sujet de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. L'intelligence artificielle est un programme qui consiste à reproduire des tâches et comportements habituels faits par des humains. Nous allons poursuivre avec un échange entre quelques salariés qui expriment leurs craintes, qui sont Lina, Lola et Eve. Bonjour à vous.
Bonjour, l'intelligence artificielle va nous remplacer ? Cela veut dire que nous allons perdre notre emploi ?
Les IA peuvent automatiser certaines tâches dans une entreprise, mais elles ne remplacent pas nécessairement tous les salariés. Elles peuvent plutôt compléter les capacités humaines et libérer du temps pour des activités plus complexes et créatives. Mais ne vous inquiétez pas, le fait d'avoir des IA, cela va créer de nouveaux métiers et votre poste va évoluer dans le temps.
Les IA seront très pratiques pour les ressources humaines. Par exemple, elles permettront de filtrer et analyser les CV de manière plus précise et rapide. Mais autrement dit, on sera moins payé ?
Non, bien évidemment, vous garderez votre salaire de base, voire plus. Mais certaines tâches répétitives pourraient être automatisées, ce qui pourrait entraîner une réduction de la demande de main-d'œuvre pour ces emplois.
Cela veut dire qu'on aura moins de contacts humains ?
Il est important de noter que rien ne peut pas remplacer les authenticités des interactions humaines. L'IA peut être un outil complémentaire. Merci de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup et à bientôt sur Radio Slash. Merci à Madame Caillé, Madame Aymar et Monsieur Nourou.